Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. On est ravis de vadrouiller avec vous jusqu'à 14h. Au programme de ce dimanche, les complotistes d'extrême droite américains qui prennent de plus en plus de place dans la campagne présidentielle. On va découvrir ensemble le mouvement QAnon qui soutient Donald Trump, présenté comme le sauveur face à une bande de satanistes pédophiles qui dirigeraient l'Amérique. C'est délirant et effrayant. On sera en Inde aussi, où les chiffres de contamination de Covid-19 explosent. On y rencontrera les bénévoles d'un collectif, les Anges de la Grâce, qui aident les plus pauvres à enterrer leurs morts.
Depuis le début de la pandémie, nous travaillons pour offrir une fin de vie digne à tout le monde, quelle que soit votre religion, quels que soient vos rites. Et nous venons chercher les corps à l'hôpital pour les acheminer vers les crématoriums, les cimetières chrétiens ou musulmans.
En Russie, on entendra les partisans d'Alexei Navalny, le leader de l'opposition russe empoisonné et toujours en soins intensifs en Allemagne. Le scandale agite la communauté internationale, mais pour les militants, les opposants en Russie, les pressions et violences continuent au quotidien.
On n'était pas prêt que Navalny disparaisse brutalement et sans lui, comment on prend les décisions? C'est-à-dire sans Navalny, c'est quoi ça?
Tout cela n'est pas très réjouissant, mais on terminera sur une touche bien plus positive, un baby boom. Ça se passe au Kenya. Carnet rose dans la savane, les éléphantaux naissent en nombre et c'est une très bonne nouvelle pour la conservation de l'espèce. Côté culture, c'est Nicolas Carreau qui viendra nous proposer un livre étranger. Quant à l'autistan, ce dimanche, il se situe en Sarre. Joseph nous emmènera visiter un complexe sidérurgique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les carnets sont ouverts et on file en Amérique.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Dernière ligne droite de la campagne présidentielle américaine, dans moins de deux mois, le 46e président des États-Unis aura été choisi. Joe Biden est donné favori devant Donald Trump par quasi tous les instituts de sondage, même si l'écart semble se resserrer. Mais ces dernières semaines, ces derniers jours même, de plus en plus de thèses conspirationnistes circulent dans le camp républicain, souvent relayées par Trump lui-même. Et en première ligne, la mouvance QAnon, la lettre Q étant le pseudo de son initiateur et Anon pour anonyme, un mouvement d'extrême droite qui diffuse des thèses à dormir debout. Écoutez ce reportage d'Aviva Fried.
Une petite cour ornée de quelques tables et bancs en pierre. C'est ici qu'a été organisée une rencontre entre les électeurs d'Ontario, petite ville à l'est de Los Angeles, et les candidats aux élections de novembre prochain. En cette fin de journée, il fait encore 36 degrés et c'est peut-être pour cela qu'il y a quasiment plus de candidats que de spectateurs. Tous sont républicains, de la frange ultra-conservatrice. Comme Mike Cargile, qui brigue un siège à la Chambre des représentants. La cinquantaine, des cheveux gris coupés courts, des yeux très bleus dans un visage bronzé, l'ancien militaire devenu producteur télé propose un programme très simple.
Je suis chretien, donc pour Dieu, pour la vie, pour la famille, les valeurs familiales et pour la police.
Jusque-là, c'est classique, mais le républicain est également pour QAnon, un mouvement complotiste dont il a adopté le slogan.
J'aime l'idée derrière leur devise « Où l'un d'entre nous va, nous allons tous ». Nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes une équipe.
Une équipe qui rassemble en fait tout ce que le complotisme compte de plus délirant. Les thèses de QAnon s'épanouissent sur le net et la plus répandue, c'est celle de l'existence d'une cabale de pédophiles cannibales adorateurs de Satan qui serait protégée par l'establishment démocrate, par les Clinton et par George Soros. Ce qui semble plausible pour Mike Cargile.
On parle de trafic d'enfants, de sacrifice d'enfants. Il y a suffisamment de preuves indirectes pour vous faire dire « Ah, peut-être ». Parce qu'on sait, avec l'implication de Bill Clinton, qu'on a affaire à des chefs d'État et des personnes au sommet de Hollywood. Et si tout est vrai, on doit aller au fond de l'histoire.
Dans une Californie majoritairement démocrate, Mike Cargile a peu de chances d'être élu, ce qui n'est pas le cas d'autres candidats.
I'm Marjorie Greene, Republican for Congress.
comme Marjorie Taylor Greene en Géorgie. Dans ses clips de campagne, la républicaine s'affiche avec un fusil d'assaut qu'elle promet d'utiliser contre les antifascistes ou les socialistes. Et elle s'exprime régulièrement en faveur de QAnon, notamment dans une vidéo de 30 minutes où elle condamne le complot sataniste. Face caméra, elle invite ses followers à adhérer à l'idéologie.
Nous avons une opportunité unique de nous débarrasser de cette cabale de pédophiles, adorateurs de Satan. Et je pense que nous avons le président qu'il faut pour ça.
Un président qui profite de cet engouement. Dans la mythologie QAnon, Donald Trump est le sauveur seul capable de faire tomber les méchants. Désormais, dans les meetings de campagne du président, il est de plus en plus fréquent de voir ses partisans brandir la lettre Q en signe d'adhésion au mouvement. Alors forcément, pas question pour Donald Trump de dénoncer QAnon.
Je ne sais pas grand-chose de ce mouvement, si ce n'est qu'il m'aime beaucoup, d'après ce que j'ai compris, et ça, je l'apprécie. J'ai entendu dire que ce sont des personnes qui aiment leur pays.
Les délires de QAnon sont tellement invraisemblables qu'on pourrait en rire, mais ils cachent en fait une réalité dangereuse. Julian Field est journaliste spécialisé dans le complotisme. Il a créé le podcast QAnon Anonymous. Dans son studio maison, au milieu d'étagères où se mélangent affiches et objets pro et anti-Q, il dissèque les mécanismes du mouvement. L'adhésion oscille entre vraie croyance et opportunisme politique.
QAnon est une sorte d'aile mystique pour la nouvelle droite fasciste américaine. De la même manière que le culte Völkisch a servi Hitler et les nazis à long terme, on constate un glissement avec les extrêmes qui grandissent et de plus en plus de gens qui croient en ces thèses mystiques et à celles de l'extrême droite. Ils sont ensuite manipulés pour devenir la base électorale d'une nouvelle droite fasciste.
Une vingtaine de candidats proches de QAnon sont en lice pour les élections de novembre et le mouvement a de grandes chances de faire son entrée au Congrès. À Los Angeles, Aviva Fried, Europe 1.
La base électorale d'une nouvelle droite fasciste, expliquait ce journaliste qui étudie les mouvances complotistes, voilà qui est inquiétant. Décryptage avec notre correspondant permanent Xavier Yvon, qu'on retrouve à New York. Bonjour Xavier.
Hello Sophie, bonjour à tous.
Alors expliquez-nous d'abord comment ça a commencé ce mouvement QAnon.
Alors ça a commencé par un post anonyme sur un forum internet controversé il y a environ 3 ans, mm-hmm. identifié juste donc par la lettre Q. L'auteur se présente comme un officier des renseignements et il explique que Donald Trump a été engagé par des généraux pour se faire élire et pour mener la guerre contre cette cabale satano-pédophile dirigée donc par les élites démocrates, médiatiques et hollywoodiennes. Tout ça culminera dans ce qu'ils appellent la tempête, le moment où Donald Trump démasquera les coupables et les punira. Ce fameux Q a publié des milliers de messages, souvent cryptiques, et on ne sait pas si c'est une seule ou plusieurs personnes qui se cachent derrière cette lettre.
Est-ce qu'on sait combien de personnes adhèrent à cette théorie ?
Alors évidemment, c'est très difficile à dire, tout se passe essentiellement sur Internet, il n'y a pas de carte de membre. Selon NBC, Facebook a fait une enquête interne et a découvert qu'il y avait des milliers de groupes QAnon sur sa plateforme avec des millions de membres. Et d'après le Wall Street Journal, l'audience de certains de ces groupes a augmenté de 600% ces derniers mois pendant le confinement. Donc d'une théorie ultra minoritaire dans un recoin du web, on est passé à un mouvement très large, de plus en plus visible, jusqu'à avoir, on l'a entendu, des adeptes candidats au Congrès. Le FBI considère le mouvement comme une potentielle menace de terrorisme intérieur.
Et Donald Trump est donc le héros de cette mouvance qu'il refuse de condamner, on l'a entendu. Quelle est son influence ?
Alors d'abord, il faut savoir que les membres de QAnon décryptent chaque fait et geste de Donald Trump. Si il cite par exemple le chiffre 17, c'est un message codé parce que Q, c'est la 17e lettre de l'alphabet. S'il porte une cravate rose, c'est qu'une opération de sauvetage d'enfants est en cours, etc. Le président lui-même participe clairement à la diffusion de ce conspirationnisme parce que parmi ses dizaines de tweets quotidiens, Donald Trump cite régulièrement des comptes d'adeptes de QAnon. C'est peut-être involontaire, mais le fait est qu'il est légitime. Et Donald Trump partage lui aussi publiquement des théories complotistes, par exemple dans une interview à Fox News cette semaine. Écoutez bien son échange avec Laura Ingraham, c'est l'une des plus trumpistes des présentatrices de la chaîne et elle-même est interloquée par les propos du président.
Je ne veux même pas parler de Biden parce qu'il ne contrôle rien du tout.
Qui tire les ficelles derrière Biden selon vous? Des anciens de chez Obama?
Des gens dont vous n'avez jamais entendu parler. Des gens qui sont dans l'ombre.
Ça veut dire quoi? On dirait des théories complotistes, les ombres?
Non, des gens dans les rues. Des gens qui contrôlent les rues. Il y a quelqu'un chez nous qui a pris un avion depuis une certaine ville ce week-end. Et l'avion était plein de voyous qui portaient des uniformes noirs avec des équipements et tout ça. Ils étaient dans l'avion. Mais je vous en dirai plus un jour. On enquête là-dessus en ce moment.
Alors, ce n'est pas du QAnon, mais c'est du complotisme, hein, clairement.
C'est pas mal.
D'ailleurs, oui, ça fait tache d'huile chez les supporters de Donald Trump.
Ouais, notamment chez ceux que vous avez rencontrés cette semaine à Kenosha, dans le Wisconsin, donc la ville de Jacob Blake, cet homme noir blessé grièvement par la police.
Oui, là-bas, il y a eu des émeutes, des bâtiments détruits, des voitures incendiées. Et pour beaucoup de fans du président que j'ai rencontrés dans la ville, tout ça n'est pas lié à un mouvement de colère contre l'injustice raciale. Non, les émeutiers, ce sont des mercenaires embauchés pour nuire à Donald Trump.
Ils sont payés. Ils sont acheminés jusqu'ici. Ils dorment dans des hôtels. Et qui fait ça? Le Parti démocrate, parce que c'est leur plan. Montrer que Trump n'arrive pas à contrôler le pays. C'est les démocrates qui font ça. Ils ont un plan pour nous priver de nos libertés. Ils sont payés par George Soros.
George Soros, on le rappelle, c'est ce milliardaire juif philanthrope qui est l'épouvantail des antisémites complotistes. Il faut comprendre que QAnon n'est pas la seule théorie complotiste dans cette campagne, mais c'est comme une grande tente où se retrouvent toutes les thèses les plus farfelues, notamment celle qui explique que le coronavirus est un mensonge.
Ah oui, il y a ça aussi. Et puis il y a des républicains qui enragent d'être embarqués là-dedans et on en reparlera peut-être. Merci beaucoup Xavier, on suivra cette fin de campagne avec vous. À bientôt.
À bientôt.
Et c'est en Inde qu'on va filer maintenant. Confrontés de plein fouet à l'épidémie de coronavirus, beaucoup d'Indiens dans la misère n'arrivent même plus à enterrer leurs morts. Et dans leur malheur, certains ont la chance de croiser des bénévoles qui leur viennent en aide, quelle que soit leur religion. Reportage à suivre.
Les Carnets du Monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
C'est dans un pays où la pandémie croît le plus rapidement au monde qu'on vous emmène maintenant. Un pays dont on parle aussi très souvent pour ses tensions interreligieuses qui tournent parfois à l'émeute. Pourtant, c'est une Inde bien différente qu'on va découvrir ensemble. À Bangalore, notre correspondant a suivi le groupe des Anges de la Grâce, les Mercy Angels. Ce sont des volontaires de toute confession qui permettent aux familles les plus pauvres, souvent ruinées par le confinement ou les frais médicaux, d'enterrer dans la dignité leur mort du coronavirus. C'est ainsi que des musulmans prient avec des familles hindoues, creusent des tombes pour des chrétiens ou cuisinent pour les infirmières qui luttent contre la pandémie. C'est un reportage de Combastin.
Au crématorium hindou Sumana Ali, ils sont nombreux à attendre ce matin que le corps d'un de leurs proches soit incinéré. À 18 ans, le jeune Selva retient son émotion. À 10 heures, ce sera le tour de son père.
Mon père est mort hier d'une attaque cardiaque après avoir attrapé le Covid. Ma famille a accouru de mon village natal, mais cette période de coronavirus nous a beaucoup appauvris. J'ai dépensé beaucoup d'argent, autour de 700 euros pour soigner mon père, mais j'ai plus rien pour l'enterrement. Heureusement, l'homme à l'ambulance a été bon avec nous. On l'a appelé et au bout d'une demi-heure, il est venu chercher le corps. Il nous a réconfortés et nous a appris à porter des gants pour toucher le corps.
L'homme à l'ambulance s'appelle Tanvir Ahmed et il est musulman. Avec son groupe Les Anges de la Grâce, il a transporté gratuitement le corps du père de Selva.
Depuis le début de la pandémie, nous travaillons pour offrir une fin de vie digne à tout le monde, quelle que soit votre religion, quels que soient vos rites. Nous avons des ambulances, nous avons des volontaires et nous venons chercher les corps à l'hôpital pour les acheminer vers les crématoriums, les cimetières chrétiens ou musulmans. Notre groupe a pris en charge au moins 400 morts. Moi, personnellement, j'en ai enterré 60 ou 70, je ne les compte plus.
La famille hindoue de Selva n'a pas de quoi payer un brahman, prêtre chargé de guider les morts vers un nouveau cycle. Alors bien que musulman, Tanvir a appris à réciter les mantras sacrés et effectuer les rituels hindous. Avant que le corps du père de Selva ne disparaisse dans les flammes du four, il procède au dernier geste, recouvert d'un kit de protection.
Avec les membres de la famille, nous avons organisé une petite cérémonie pour le père. Selon leur coutume, il faut verser du lait dans la bouche du mort. Ensuite, on l'a recouvert de feuilles de bétel et de fumée de camphre pour son dernier voyage.
Midi, à l'autre bout de la ville, les cuisines des Anges de la Grâce tournent à plein régime. Dans un ancien foyer pour étudiants musulmans, des bénévoles s'activent pour fournir des repas à de nombreux médecins et infirmières. Le responsable Tousif Massoud explique.
Nous préparons des plats trois fois par jour ici. Nous les offrons aux travailleurs du front, c'est-à-dire aux professionnels de santé. Les docteurs, les infirmières font face à une forte pression. Certains ne peuvent pas rentrer manger à la maison pour des raisons sanitaires. Ils travaillent 12 à 14 heures par jour en kit de protection. Nous distribuons à tous les types d'hôpitaux et uniquement des plats végétariens pour que tout le monde puisse les manger. Tout est préparé de façon hygiénique et chaque jour nous cuisinons entre 500 et 2000 repas.
Anywhere between 500 to 2000 meals.
À 18h, je retrouve Tanvir au volant de sa voiture, en route pour un nouvel enterrement.
Nous avons reçu un appel sur notre numéro d'urgence qui est devenu viral. En ce moment, nous faisons route vers la porte numéro 4 du cimetière de la route d'Ossour. C'est un cimetière chrétien.
Le jour se couche et plusieurs personnes creusent une tombe sous la lumière des lampadaires et de smartphones. Une ambulance vient de déposer un corps. Anna fait partie des volontaires.
Cet homme est mort il y a 2 jours. La famille vient d'un milieu très défavorisé. Il n'avait pas de quoi régler les frais d'hôpitaux. Depuis hier, nous avons levé des fonds pour payer le cercueil. L'hôpital a accepté de réduire sa facture. Finalement, le corps est enterré ce soir. Il va pouvoir reposer en paix. C'était un dernier voyage très difficile pour cet homme.
À 21h, l'enterrement est terminé. Avec d'autres volontaires, Tanvir est assis sur une tombe chrétienne. Il regarde brûler les tas de kits de protection, masques et gants utilisés pendant la journée.
Je crois que l'Indien moyen est très fraternel. Cette fraternité est aujourd'hui remise en cause pour des raisons politiciennes, mais notre peuple reste très généreux. Même durant la crise des migrants qui a suivi le confinement, nous avons nourri les plus pauvres avec des volontaires de toutes les religions, pour le bien de l'humanité.
Les anges de la grâce de Bangalore sont particulièrement nombreux et organisés, mais partout en Inde, les médias rapportent l'histoire de croque-morts au grand cœur qui aident les familles les plus pauvres à enterrer leurs proches. Bangalore, Combastin, Europe 1.
Voilà, reportage très touchant sur ces Mercy Angels qui s'engagent sans relâche en Inde. Et on est en ligne avec Com depuis Bangalore. Bonjour Com.
Bonjour Sophie.
Il faut qu'on prenne avec vous la mesure de l'ampleur de la pandémie dans cet immense pays. Il y a urgence, le coronavirus progresse fortement.
Tout à fait. L'Inde, avec 4 millions de contaminés, talonne désormais le Brésil comme deuxième pays le plus contaminé au monde. Et le plus inquiétant est le nombre de cas détectés chaque jour, près de 80 000. Ce sont les plus fortes hausses jamais enregistrées sur la planète depuis le début de l'épidémie, alors même que le nombre de tests pratiqués est encore trop faible et que beaucoup d'experts pensent donc que les chiffres réels sont bien plus élevés. Le pic de l'épidémie, attendu en août, a été repoussé en septembre. On parle désormais d'octobre. Wow. Il faut cependant rappeler qu'on parle de la deuxième population mondiale. Si on ramène les cas aux 1,3 milliard d'habitants du sous-continent, l'Inde est en meilleure position que la plupart des pays d'Amérique, d'Europe au moment du pic ou que la Russie.
Oui, parce qu'en fait, si on regarde les chiffres, notamment ces 80 000 contaminations quotidiennes, c'est énorme, qui plus est sous-estimé, on peut dire que le peuple indien est finalement plutôt résistant face au virus.
Oui, puisqu'on compte 70 000 morts en Inde et que c'est finalement assez peu par rapport au nombre de contaminés. Mmh. Et ce qu'il y a d'encore plus surprenant, c'est que ce sont les populations pauvres qui résistent le mieux. Mmh. Ça intrigue tellement les scientifiques que plusieurs études aléatoires ont été effectuées. L'une d'elles montre qu'à Bombay, 57% des habitants des bidonvilles auraient déjà contracté le Covid, la plupart du temps de façon asymptomatique. 57%, c'est proche du seuil d'immunité collective. Mmh. Alors il n'y a pas de consensus sur le pourquoi, mais des hypothèses. La jeunesse des habitants, d'abord. Également un meilleur système immunitaire dû à l'exposition à de nombreux microbes, ou encore, ça peut paraître surprenant, un mode de vie plus sain que la classe moyenne. Les plus démunis évitent les complications comme le diabète, l'obésité, l'hypertension, des pathologies dont on sait qu'elles font très mauvais ménage avec le coronavirus.
Ouais. Une mortalité relative donc, même si ça peut paraître paradoxal. Mais alors sur le plan de l'économie, qui était déjà en difficulté avant la pandémie, là c'est la catastrophe.
Oui, les chiffres du PIB pour la période avril-mai-juin, c'est-à-dire en plein confinement, viennent de tomber. Moins 23,9%, c'est la plus forte chute enregistrée parmi les grandes économies de ce monde. Beaucoup y voient la conséquence d'un confinement brutal qui a été décrété en 4 heures fin mars, qui a jeté des centaines de millions d'Indiens dans la misère du jour au lendemain. 19 millions d'emplois auraient été perdus, et c'est sans compter le secteur informel. Dans le détail, ce sont les secteurs de la construction et de l'industrie qui sont les plus ravagés. Les campagnes qui ont vu revenir un grand nombre de travailleurs des villes encaissent mieux le coup. Le PIB du secteur agricole a même augmenté de 3,4%. Mais les campagnes, c'est aussi le principal secteur d'inquiétude des épidémiologistes, parce que si le virus est parti des grandes villes comme Bangalore, ce sont désormais les zones rurales qui voient croître la pandémie le plus rapidement, des zones sous-équipées en docteurs et en hôpitaux.
Ouais, effectivement, donc on peut craindre malheureusement une aggravation de la situation sanitaire en Inde dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Com, notamment de nous avoir permis de rencontrer les Mercy Angels, ces anges de la grâce. À bientôt.
À bientôt.
À suivre dans quelques instants, une respiration littéraire avec Nicolas Carreau. Il arrive.
Les Carnets du Monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Le Monde vu vue par les artistes, en l'occurrence les auteurs. C'est notre rendez-vous culturel des carnets à mi-parcours de l'heure qu'on passe ensemble. Et c'est à nouveau Nicolas Carreau qui nous a rejoint cette semaine. Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
Aujourd'hui, vous nous emmenez sur les chemins escarpés du désir, avec un livre évidemment.
Escarpé, tortueux et complexe, c'est sûr. C'est cette piste en tout cas que l'auteure américaine Lisa Taddeo a voulu explorer dans Trois femmes chez Lattès. On suit donc trois femmes, toutes différentes et qui vivent des situations différentes, donc des situations amoureuses. Les chapitres alternent entre Maggie, Lena et Sloane. Vous savez, on commence l'histoire, on s'attache au personnage et hop, ouais, ça s'arrête, on passe à un autre. Au début, on est fâché d'avoir quitté le personnage qu'on aimait bien et puis on se laisse absorber par la vie du nouveau et on change encore, etc. Classique.
Mais ça n'est pas un roman.
Et non, ça y ressemble, mais non. C'est ce qu'on appelle de la narrative non-fiction, de la non-fiction narrative, si vous préférez, mais je le dis en anglais parce que c'est un style très anglo-saxon. C'est une enquête sociologique, mais écrite comme un roman.
Et c'est une enquête donc sur le désir.
Oui, et quand je dis enquête, c'est pas une façon de parler. Lisa Taddeo n'a pas choisi comme ça, pif paf pouf, les trois femmes dont elle allait parler. Ça lui a demandé un travail considérable. Il fallait trouver des femmes qui acceptent de se livrer sur des sujets très, très intimes et éventuellement douloureux. Bon courage pour les trouver. Constance Rappenard est l'éditrice du livre.
C'est un très long travail parce qu'en fait, en réalité, elle a rencontré des centaines de femmes pour ce projet et elle a choisi ces trois-là, évidemment parce qu'il y a eu quelque chose d'affectif dans la rencontre et ça c'est normal, c'est la part humaine du métier et c'est tant mieux et c'est d'ailleurs pour ça que le livre est aussi sensible et touchant. Mais surtout, elle voulait absolument s'assurer que ces trois femmes lui livreraient l'intégralité de ce qu'elles ont vécu, sans aucun tabou. D'ailleurs, dans deux des cas sur trois, elle est allée, Lisa Taddeo, jusqu'à s'installer dans les lieux de vie de ces femmes pour être au plus proche de leur quotidien, pour vraiment... Elle a passé des milliers d'heures à les enregistrer sur dictaphone, elle a épluché les casiers judiciaires, elle s'est renseignée auprès de leurs amis, de leur famille. C'est un travail d'enquête totalement fascinant.
Ah, elle n'a pas fait semblant, elle a mouillé la chemise. Que raconte-t-elle, ces femmes? Pourquoi elle?
Alors, il y a Maggie d'abord. Le récit commence au tribunal. Bonne ambiance. On comprend que c'est elle qui a porté plainte contre un homme qui est là aussi. C'était son prof d'anglais, un homme marié. Et les choses se sont mal passées. Ensuite, on rencontre Lina. Elle a 15 ans. Elle a le béguin pour Aidan. Ça tombe bien, sa copine Jennifer lui propose d'aller au cinéma avec son petit ami à elle et Aidan. Le film, c'est Seven avec Brad Pitt. Et Aidan va l'embrasser. C'est une histoire d'amour d'ado, donc c'est mignon. Mais après, c'est glaçant. Mmh. Elle est invitée à une fête et est violée par deux types qui lui font boire du GHB. Beaucoup plus tard, Lina est mariée depuis 10 ans. Elle a deux enfants. Elle s'ennuie et elle retombe sur
Aidan.
Bravo. Et puis Sloane, Sloane entrepreneur, elle tient un restaurant avec son mari Richard du côté de Newport. Ça marche bien, mais son couple est libre. Ils sont échangistes et ça lui convient très bien. Enfin, jusqu'au jour où elle se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça.
C'est cru, j'imagine.
Alors oui, souvent. Brutal, parfois aussi. Et c'est fascinant, complexe. C'est un portrait aussi d'une époque, portrait de femme aussi, des vies que l'on découvre avec tout le romanesque de la réalité.
Mais
c'est
donc,
beau, ça.
Hein, c'est très joli. On sait qui elles sont dans la réalité. Elles sont reconnues à la sortie du livre.
Alors, c'est la question que j'ai posée à Constance Rappenard.
Il y a un des prénoms qui a été modifié dans le livre. Il y en a une qui est Maggie. Elle a décidé en réalité que de parler à visage découvert. Donc elle a été interviewée, mais elle a été très protégée en réalité à la sortie du livre par les journalistes et les deux autres également. Et il n'y a pas eu d'enquête derrière pour aller les suivre, pour aller demander comment ça s'est passé. C'est le grand avantage du livre, c'est que ce n'est pas du tout racoleur en réalité. C'est vraiment l'idée, c'était de s'appuyer sur le désir féminin, plus que sur ces trois femmes-là en particulier. Le fait qu'elles soient américaines, blanches, en fait, ce sont trois femmes et ce sont toutes les femmes.
Comme un bon roman, là aussi. Hein. Le particulier mène à l'universel.
Exactement.
Trois femmes, c'est signé Lisa Taddeo, donc une américaine, vous le disiez, traduit par
Luc Dutour, chez Lattès.
Merci beaucoup, Nicolas. À tout à l'heure, La Voix et Livre, ce sera juste après les infos de 14h.
À tout à l'heure.
À suivre une histoire d'empoisonnement qui ferait un bon roman, là aussi. Mais là aussi, c'est la vraie vie. On va parler des opposants en Russie et d'Alexei Navalny.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Le rouble, la monnaie russe, a plongé mercredi soir après que l'Allemagne a confirmé qu'Alexei Navalny avait bien été empoisonné. L'opposant russe est toujours hospitalisé à Berlin dans un état grave. La chancelière Merkel dénonce un crime destiné à réduire Navalny au silence. Elle demande des comptes à Moscou. L'Union européenne exige une enquête. Incroyable feuilleton
démarré par un malaise le 20 août dernier dans un avion ramenant l'opposant de Sibérie vers la capitale. Il était là-bas pour soutenir les candidats anti-Poutine d'élections locales qui doivent se tenir dimanche prochain. Depuis l'exfiltration de leur leader vers l'Allemagne, les partisans de Navalny poursuivent leur combat politique malgré les embûches et le danger que certains ressentent depuis longtemps déjà. Notre correspondant Paul Gogo est allé les rencontrer. Reportage.
C'est une petite porte en contrebas d'une avenue moscovite dans le centre-ville de la capitale russe. Le shtab, comme on dit en russe, le quartier général des militants qui soutiennent l'opposant Alexei Navalny, n'a pas changé d'adresse depuis quelques mois et c'est une victoire en soi. Pendant la présidentielle de 2018, les militants déménageaient tous les 10 jours, éjectés par leurs propriétaires menacés par les autorités. Dans l'entrée du QG, plusieurs portraits d'Alexei Navalny rappellent les militants à la triste réalité. La figure de proue de l'opposition russe est dans le coma depuis le 20 août dernier, hospitalisé en Allemagne après avoir été empoisonné en Russie. Militer contre le pouvoir russe peut être dangereux, mais les soutiens de l'opposant ont appris à vivre avec. Oleg Stepanov, coordinateur du quartier général moscovite.
Avoir peur ou ne pas avoir peur, qu'est-ce que ça change? Nous comprenons bien les risques. Nous savons qu'à tout moment, même maintenant, quelqu'un peut essayer d'entrer dans notre local ou la police peut venir faire une perquisition. C'est déjà arrivé pendant des formations, par exemple. Et à chaque fois, la police repart avec tout l'électronique que les gens ont sur eux. Donc attention à vous. Oui, nous savons qu'il y a des risques, mais que faire?
Ce soir, une vingtaine de personnes participent à une formation pour être observateurs d'élections. Des soutiens de Navalny et de simples citoyens qui iront surveiller des scrutins en région à la mi-septembre. La Russie s'apprête à élire les responsables de 18 régions et républiques russes.
On va souvent essayer de vous limiter parce que dans les bureaux de vote, il y a des emplacements pour les observateurs. La première chose qu'on vous dira, c'est mettez-vous là-bas, asseyez-vous là-bas. Plus vous serez placé loin des urnes et des membres de la commission, mieux ce sera pour eux.
Ces scrutins à venir ne sont pas gagnés d'avance pour Vladimir Poutine, notamment grâce à cette stratégie développée par Alexei Navalny depuis 2 ans, puisque les candidats indépendants sont souvent invalidés par le pouvoir. Le vote malin consiste à orienter les électeurs vers les candidats les moins liés au Kremlin. Oleg Stepanov explique cette stratégie qui dérange le Kremlin.
On essaie de réunir les votes de ceux qui s'opposent au parti du pouvoir et à Vladimir Poutine. On leur indique quel est le candidat le plus fort pour faire perdre les candidats du Kremlin. C'est ce qui s'est passé l'été dernier. Lors des élections pour le Parlement municipal de Moscou, aucun candidat indépendant n'a été autorisé à participer.
Résultat, plusieurs communistes et autres militants proches de l'opposition ont à l'époque remporté leur scrutin. De quoi agacer le Kremlin. Mais pour que la stratégie fonctionne, encore faut-il que les scrutins soient honnêtes. Artyom, 26 ans, est inquiet de cet acharnement contre les opposants. C'est pour ça qu'il est venu à la formation.
Ce qui s'est passé avec Navalny m'a ouvert les yeux. Tout ne va pas bien dans le pays. Il est temps de prendre des initiatives, de prendre les choses en main. On a un pays fort, un des meilleurs au monde, avec une histoire riche, des bons et des mauvais moments. Et ce qui se passe en ce moment défie toute logique. Pourquoi nous ne pouvons pas vivre en Russie comme dans les autres pays développés?
Dans le QG, un sujet reste toutefois tabou, celui d'un avenir sans Alexei Navalny, si l'empoisonnement de cet avocat anti-corruption devait l'écarter à jamais de la politique russe. Moscou, Paul Gogo, Europe 1.
Voilà, retour dans le studio d'Europe 1 et Paul Gogo est resté en ligne avec nous depuis Moscou. Bonjour Paul.
Bonjour.
On entend dans votre reportage que les partisans d'Alexei Navalny ont du mal à imaginer un avenir sans lui, le cas échéant. Qu'est-ce qui se passerait si l'opposition russe perdait son leader?
Eh oui, elle a du mal à le concevoir et même pour nous, journalistes, qui croisons Alexei Navalny et sa femme dans toutes les manifestations, il faut bien comprendre que les autres mouvements d'opposition n'agissent jamais sans prendre en compte l'agenda de cet avocat blogueur et de ses troupes. Donc vraiment, tout le monde attend de voir comment va évoluer son état. Il existe bien sûr d'autres opposants en Russie, mais personne qui ait le charisme et le courage d'un Navalny. Et puis dans l'opposition, aujourd'hui, on rêve de plus en plus d'un mouvement sans leader, comme en Biélorussie ou dans les manifestations en Extrême-Orient.
Alors pour prendre un peu le pouls de cette opposition à Vladimir Poutine, vous êtes allé rencontrer Alexei Venediktov. Il est rédacteur en chef de la radio indépendante Écho de Moscou. Comment voit-il les choses ?
Eh bien d'abord, le journaliste rappelle qu'Alexei Navalny est soutenu par les citoyens russes à travers tout le pays. En 2018, l'opposant était même parvenu à ouvrir des QG dans toutes les villes de Russie. Pour Alexei Venediktov, l'absence de Navalny est une question sérieuse qui pourrait vite se poser.
On n'était pas prêt que Navalny disparaisse brutalement, qu'il ne sera pas dans la position même dans l'étranger de parler, de donner l'ordre. Il est le chef, je dirais, plutôt autoritaire dans le sens des chefs. Et sans lui, comment on prend les décisions? C'est-à-dire, sans Navalny, c'est quoi ça? Et je pense que beaucoup de personnes, bien sûr que les élections mobilisent l'opposition, mais tout de même, après les élections, la question est demain.
Voilà, l'incertitude après les élections si Navalny ne revenait pas. De toute façon, même Navalny absent maintenant, la pression est maintenue sur les opposants. Lundi dernier, un des collaborateurs de la radio, Écho de Moscou, très militant, s'est lui aussi fait agresser, Paul.
Oui, Yegor Zhukov, c'est la dernière recrue de la radio. Il souffre d'une commotion cérébrale. Ce militant blogueur, plein d'ambition, se présente lui-même comme le futur Navalny et même comme le futur président de Russie. Il s'est fait tabasser lundi. Il y a un an, durant l'été 2019, cet étudiant blogueur avait été poursuivi en justice, accusé d'extrémisme et finalement libéré sous la pression de la rue. Alexei Venediktov l'a embauché dans sa radio pour lui éviter la prison et le voici désormais à la tête d'une interview politique sur Écho de Moscou.
Alors Venediktov, ce rédacteur en chef, c'est un vieux de la vieille, hein, on peut dire ça comme ça. Que dit-il de ces pressions ou violences envers l'opposition qui s'accentuent?
Eh bien, ce qui est marquant, c'est qu'en discutant avec Alexei Venediktov, comme avec les soutiens d'Alexei Navalny d'ailleurs, tous sont d'un fatalisme désarmant. Tous vivent avec le risque d'être arrêtés. Les jeunes militants que je rencontre au quotidien sont systématiquement déjà passés par des gardes à vue. Et même pour moi, ce n'est pas d'ailleurs très rassurant de passer trop de temps avec les soutiens d'Alexei Navalny. Ouais. Pour Alexei Venediktov, le contexte national et international incite le Kremlin à pousser la répression toujours plus loin.
Autrefois, quand il y avait les attaques physiques contre Navalny et les autres leaders de l'opposition, avec les attaques des gens de la rue, etc., etc., on n'a puni aucune personne. C'est-à-dire, si vous ne punissez pas les criminels qui attaquent les personnalités dans la rue, les leaders de l'opposition, alors vous donnez le feu vert. C'est irresponsable, mais c'est un signal pour tous les autres qu'on peut attaquer, même tuer.
Ouais, ce que dit Venediktov ici, c'est qu'au minimum, en laissant faire, le Kremlin est indirectement responsable des agressions et des intimidations.
Oui, et dans le cas de Navalny, tout mène directement au Kremlin, notamment le poison utilisé, le Novichok, considéré comme un agent uniquement utilisé par les services de renseignement. Pourtant ici, certains estiment que l'empoisonnement de Navalny n'arrange pas les affaires du Kremlin. Moscou est sommé de mener une enquête, risque de nouvelles sanctions internationales. Ouais. Et puis cela souligne aussi que Navalny, c'était un peu la caution démocratique du clan Poutine. Provoquer sa disparition reviendrait à se tirer une balle dans le pied. Aucun intérêt.
Ouais, c'est QFD, mais voilà une démonstration qui ne convaincra pas tout le monde. En tout cas, le feuilleton Navalny continue. Les médecins allemands veillent sur l'opposant russe qui est protégé à l'hôpital. Merci Paul pour ces explications. À très bientôt dans les carnets.
Au revoir.
Dans un instant, on change complètement de décor. Je vous emmène en safari au Kenya pour découvrir plein d'éléphantaux dans les pattes de leur mère. Un véritable baby boom.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Voici une excellente nouvelle et même une victoire pour la conservation de la vie sauvage au Kenya. Le pays enregistre un véritable baby boom chez les éléphants ces derniers mois. Alors rien à voir cette fois avec le confinement face à la pandémie dont on sait qu'il a eu pas mal d'effets positifs sur la biodiversité. Rien à voir puisque la gestation d'une éléphante d'Afrique est d'environ 22 mois. Recherchés pour l'ivoire de leur défense, ces pachydermes sont globalement en voie de disparition. Mais donc leur nombre a carrément doublé au Kenya ces 30 dernières années. C'est le fruit d'une lutte sans merci contre le braconnage. Voici le reportage de notre correspondante sur place, Charlotte Simonard.
Nous sommes au cœur du parc national du Tsavo, le plus vaste du Kenya, situé à la frontière tanzanienne, 22 000 km² de savane africaine. Des paysages tantôt rocailleux et arides, tantôt verdoyants et montagneux, sur une terre couleur ocre. Ici, l'homme n'est pas le maître des lieux. À bord de sa voiture de safari, Peter Ndovi, guide touristique depuis près de 30 ans.
Regardez là, sur la gauche, il y a une famille d'éléphants. Et je vois deux ou trois petits. Ils se cachent sous les branchages, mais il doit y en avoir au moins deux. Avant, c'était très rare d'en voir, mais aujourd'hui, une famille de 10 éléphants compte en général 5 éléphantaux, donc c'est un boom.
Les éléphantaux tombent du ciel, titrait il y a peu un grand quotidien du pays. Depuis le début de l'année, des parcs enregistrent des records de natalité, plus de 150 pour certains d'entre eux. Pour comprendre, il faut remonter 2 ans en arrière, soit le temps de gestation chez les éléphants. Les pluies étaient alors abondantes et la végétation plus dense, ce qui a permis aux femelles, en meilleure forme, de mener à terme leur grossesse. Peter Endovi nous emmène au plus près de ce groupe d'éléphants. Lentement, pour ne pas perturber les éléphantaux, âgés d'à peine quelques mois, ils se cachent entre les pattes de leur mère. Elle reste imperturbable, bien trop occupée à arracher de l'herbe pour se nourrir. Elle pourrait presque nous toucher avec sa trompe.
Aujourd'hui, je peux avancer la voiture très près des éléphants et ils restent gentils. Ils ne sont plus aussi agressifs qu'avant, car ils ne sont plus braconnés. Il y a quelques années, lorsque vous voyiez un groupe d'éléphants, ils étaient toujours peureux et prêts à attaquer. Et vous savez, lorsque les éléphants sont stressés, leurs femelles ne tombent pas enceintes. Une famille d'éléphants ne comptait en général qu'un seul bébé, parfois même aucun.
C'est l'autre explication du baby boom chez les éléphants du Kenya, la lutte anti-braconnage menée sans merci par les autorités. En 30 ans, elle a permis de doubler le nombre de pachydermes, jusqu'à 34 000 à ce jour dans le pays. Peter Endovi en a été l'un des témoins privilégiés.
Quand j'ai commencé les safaris, les éléphants étaient massacrés. Je me souviens en 1988, j'avais roulé dans le parc du Tsavo sur 80 km. Et j'avais compté ce jour-là 5 éléphants morts sur mon chemin, tous sans leur défense. Mais aujourd'hui, c'est très rare de voir un éléphant mort. Et quand on en voit un, il est mort naturellement, car vous le retrouvez toujours avec ses défenses.
Au Kenya, les éléphants vivent désormais des jours heureux. Au pied du Kilimandjaro, on annonce même la naissance d'éléphantaux jumeaux. Un phénomène extrêmement rare chez les pachydermes, observé à peine 3 fois en 50 ans dans cette partie du pays. Dans le parc du Tsavo, Charlotte Simonard, Europe 1.
Voilà, quel beau carnet de naissance. On retrouve Charlotte Simonard qui a regagné la capitale Nairobi. Bonjour Charlotte.
Bonjour Sophie.
Des éléphants de plus en plus en sécurité au Kenya, on l'a entendu. Hein. Aujourd'hui, le pays compte 34 000 éléphants. C'est plus du double d'il y a 30 ans, mais c'est merveilleux.
Alors oui, hein, c'est très encourageant, mais rappelons Sophie qu'à la fin des années 70, le Kenya comptait 275 000 éléphants sur son territoire. Donc la route est encore bien longue pour attraper les effets des massacres. Cela dit, le Kenya fait figure de modèle en matière de lutte contre le braconnage, surtout pendant la dernière décennie. Mmh. Je vous propose d'écouter le défenseur de l'environnement, Richard Moller. C'est une pointure ici au Kenya en matière de protection des éléphants.
La vitesse avec laquelle le braconnage des éléphants a chuté, surtout ces 7 dernières années, est extraordinaire. Car on parle d'une chute entre 70 et 90%. C'est une combinaison de plusieurs facteurs, une volonté politique du Kenya, la pression des populations locales, la pression internationale sur les gouvernements pour régler la situation, mais aussi la loi kenyane sur le braconnage. Elle a été révisée en 2013. Les peines encourues ont été alourdies pour les braconniers et toute personne arrêtée en possession d'ivoire.
Oui, aujourd'hui, participer à l'extermination d'une espèce menacée est passible de la prison à vie.
Ah oui, ben on imagine que c'est dissuasif, effectivement. Alors, il y a le trafic d'ivoire d'un côté, très prisé sur les marchés asiatiques pour ses prétendues vertus thérapeutiques. Mais il y a aussi d'un autre côté des conflits avec les populations locales qui mettent aussi en danger les éléphants.
Oui, ici au Kenya, il n'est pas rare d'entendre qu'un troupeau d'éléphants a piétiné les cultures d'un village et les habitants de manifester et d'appeler le gouvernement à l'aide. Des conflits qui se multiplient à mesure que la population augmente. Hein. En fait, la faune sauvage et les hommes se disputent de plus en plus les territoires. Et beaucoup d'animaux sont empoisonnés par les villageois qui veulent protéger leur culture et leur bétail des attaques de lions, d'éléphants, de léopards, etc. Alors les autorités ont pris la mesure du problème et dans leur stratégie, elles ont impliqué justement ces populations rurales qui vivent aux abords des parcs dans la protection de la faune. C'est l'une des clés de la réussite kenyane, comme l'explique le défenseur de l'environnement Richard Moller.
Dans beaucoup d'endroits au Kenya, vous avez ce qu'on appelle les mouvements des communautés pour la protection de la faune sauvage. Ces organisations donnent le pouvoir aux communautés elles-mêmes de mener à bien des projets liés à la conservation. Des projets à long terme qui améliorent le quotidien de ces populations marginalisées, elles y voient de vrais bénéfices à protéger l'environnement. Sans les impliquer, ces populations videraient les parcs et les réserves de leurs ressources naturelles pour survivre. Consommation de viande de brousse, trafic d'ivoire, abattage des arbres pour en faire du charbon de bois, etc.
C'est une belle réussite au Kenya, même s'il y a un bémol, Charlotte. L'avenir s'annonce plus fragile depuis qu'un certain coronavirus a bousculé le monde. Quelle est l'incidence de la pandémie sur la protection des éléphants?
Eh bien, le coronavirus a entraîné l'effondrement du secteur touristique au Kenya, principal pourvoyeur de fonds pour la protection de la faune sauvage. Et les défenseurs de l'environnement le savent, tous ces efforts pour sauver les éléphants pourraient être mis à mal très rapidement si la lutte contre le braconnage venait à s'affaiblir. Alors aujourd'hui, les parcs gérés par l'État résistent encore à la crise, mais les réserves privées qui appartiennent à des communautés, eh bien, elles n'ont plus les fonds nécessaires pour se protéger des braconniers, sans parler des milliers de Kenyans qui travaillent dans le tourisme et qui aujourd'hui se retrouvent sans emploi. Ils pourraient être tentés par les réseaux criminels comme le braconnage. Mmh. Alors pour l'instant, pas d'hécatombe, mais cela peut encore arriver, car la crise ne fait que commencer.
Ouais, si on élargit un peu le prisme, j'ajoute qu'à l'échelle du continent africain, une dizaine de milliers d'éléphants sont encore abattus chaque année. C'est quand même énorme. Et l'Afrique compte un peu plus de 400 000 éléphants aujourd'hui contre plus d'un million dans les années 70. Merci beaucoup Charlotte, en tout cas pour cette échappée très dépaysante dans la savane kenyane. À bientôt.
À bientôt Sophie.
Et dans quelques instants, c'est à une autre échappée à laquelle je vous convie, une petite balade en Autistan avec Joseph Chovanec qui nous rejoint.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Il est philosophe, autiste Asperger et surtout voyageur incorrigible. Et chaque dimanche, il nous emmène en Autistan, une contrée dont il a inventé le nom et qui est surtout une manière singulière de regarder le monde. Joseph Chovanec nous a rejoint dans le studio d'Europe 1. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde. Ravi d'être là
en et de vous revoir en chair et en os. Alors malgré le virus, Joseph, vous trouvez toujours des lieux à visiter. Il y en a un en particulier qui vous a marqué ces derniers jours.
Oui Sophie, dimanche dernier, j'ai visité un lieu totalement singulier, le site industriel de Völklingen dans la Sarre. Alors certes, c'est un peu moins connu que mettons Disneyland.
Oui, même si ce complexe sidérurgique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Et c'est le premier, je crois, à être inscrit. On se demandera ce qui a bien pu me pousser là-bas au prix de nombreuses heures de route. La raison est très simple. Depuis longtemps, je suis fasciné par la Sarre, cette région à mi-chemin entre France et Allemagne. Actuellement, la Sarre fait partie de l'Allemagne, mais elle a été plusieurs fois française ou indépendante dans l'histoire récente. C'est une région assez spéciale, pas vraiment dans les deux grandes cases, un peu comme les autistes peut-être. Dans les années 50, quand beaucoup espéraient faire de la Sarre le siège extraterritorial des institutions européennes, un peu façon Washington. C'est d'ailleurs de cet épisode que Europe numéro 1, à l'époque, tire son nom, vu que le premier émetteur de la radio était justement dans la Sarre.
Mais alors pourquoi ce site industriel pour cette visite-là?
On ne peut pas le manquer. Ah. Quand on passe la frontière en train, on voit à l'horizon une silhouette ocre menaçante, gigantesque. On pourrait croire un décor apocalyptique de tournage d'une super production hollywoodienne. Mais rien n'est fictif ici. Vous êtes face à l'un des plus grands sites industriels de l'histoire. J'ai déjà vu des usines monstrueuses. Par exemple, celle qui vous barre la vue et l'entrée de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Ou alors les usines barricadées en camps retranchés à la périphérie de Téhéran. On en devine la présence surtout par des nuages épais de fumée aux couleurs toxiques qui en sortent. Mais je n'avais pas encore eu cette impression de gigantisme.
J'ai lu qu'il s'étendait sur 6 hectares.
En tout cas, je m'y suis perdu. Et quand on entre, on parvient au pied des hauts fourneaux, les mélangeurs, silos de stockage de minerais et autres termes techniques que j'ai oubliés, un silence de cathédrale se fait spontanément. Le nombre de types d'installations aux noms étranges, l'entrelacement de rails métalliques, de poutres depuis les sous-sols jusqu'à très haut par-dessus les têtes, cela fait croire à un jeu autistique qui a mal tourné, envahi par la rouille, mais aussi la végétation sauvage. Mais il y a mieux que cet aspect technique, c'est la dimension humaine.
Alors au plus fort de la production d'acier dans l'après-guerre, donc, l'usine employait plus de 17 000 ouvriers.
Oui, c'était une ville. Hein. Ouais. C'était une ville. Et le site a l'air d'avoir été quitté hier. À chaque pas, des restes d'activité humaine, des casiers avec des numéros pour les affaires des travailleurs, les affiches sur les murs avec le règlement de la cantine, hein, dans un savoureux mélange d'allemand et de français. J'avais presque envie de boire mon café. Hein. Des assiettes, des gobelets, des casques pour se protéger
la tête.
Mais
c'est Pompéi sans la lave, votre usine.
Ou même peut-être avec la lave, cette rouille qui envahit tout. Et pourtant, le site n'est pas très ancien. Ce n'est que dans les années 80 que le bruit des machines a cessé à jamais. Ça m'a laissé songeur. Qu'est-ce que le monde a changé en quelques années? Dans les années 70 ou 80, le Luxembourg, pays voisin, hein, c'est un pays pauvre, menacé d'implosion, de disparition. Il y a un demi-siècle, le symbole ultime de la prospérité, c'était des cheminées d'usines qui crachaient de la fumée épaisse. J'en ai marre de vieux billets de la Tchécoslovaquie communiste, où l'on peut voir comme preuve ultime, hein, du triomphe du socialisme, une silhouette d'usine greffée sur ce que l'on peut voir de la vieille ville de Prague. En somme, ces leçons du site de Völklingen me trotteront longuement dans la tête. Hein. La richesse des pays peut basculer en une génération et nos valeurs les plus chères finalement évoluent ou totalement sont changés. Je pensais voir d'immenses machines rouillées le jour de ma visite, mais j'ai surtout vu notre fragile humanité. Et là, je n'ai pas rencontré Greta Thunberg, mais ça, c'est pas très surprenant.
Non. Sur un site comme celui-là, une fragilité qui s'est révélée en peu de temps, hein, finalement, quelques décennies. 1986, c'est la date de fermeture de ce complexe sidérurgique, c'était avant-hier. Hein. Oui. Merci beaucoup, Joseph, pour cette visite par procuration que vous nous avez permis de faire. En Sarre. On vous retrouve dimanche prochain.
À très bientôt. Merci.
Sans faute. Et voilà, c'est l'heure de refermer les carnets du monde. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui encore. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission et le partager sans modération. Il est sur europe1.fr à la page des carnets. Dans un tout petit instant, après les infos, la voix et livre, Nicolas Caro s'installe dans le studio. Nicolas, quel est le programme aujourd'hui?
Alors là, on va bien s'amuser. Je reçois Hervé Letellier qui publie L'Anomalie. C'est un peu de la science-fiction. Je vous résume, l'idée c'est qu'est-ce que vous feriez si dans le monde, sur la planète, vous aviez un double de vous, un vrai double.
Pas mal. Merci, on vous retrouve dans quelques minutes. Merci à Marc Fréjean qui a réalisé cette émission, à Florence Gimalac qui m'a aidé à la préparer. Tous ensemble, on vous donne rendez-vous dimanche prochain, dès 13h, pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.